La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard. Camille Magnard, je vous entends, je sens que vous respirez quelque part dans l'hyperespace.
Je suis là, vous m'entendez
voilà,
pas
vous
bien.
Êtes là, là maintenant je vous entends très bien. Et nous parlons ce matin d'un pays qui n'a pas connu de confinement face à l'épidémie de Covid-19, mais qui reste sur ses gardes.
Oui, ce pays, c'est la Corée du Sud, où cela faisait des semaines que le nombre de nouveaux cas de contamination se comptait sur les doigts d'une main. Épidémie bien sous contrôle depuis un mois donc, mais je le dis au passé parce que ces derniers jours, les bilans quotidiens sont repartis à la hausse. Pas moins de 35 nouveaux cas reportés ce dimanche, selon l'agence nationale Yonhap. C'est en grande partie lié, figurez-vous, à un nouveau cluster, un foyer de propagation identifié la semaine dernière autour d'un quartier. Celui d'Itaewon à Séoul, et même plus précisément autour d'une personne, comme nous l'explique The Korea Herald. Au cœur de cette nouvelle brèche, dans le système sud-coréen dont on a tant vanté les mérites, basé sur le traçage des individus et la détection de leurs contacts, il y a un jeune homme, 29 ans, employé dans une société de jeux vidéo et adepte de sorties nocturnes, donc dans ce quartier festif, branché et cosmopolite d'Itaewon. Le dit quartier a été bouclé, les bars et discothèques fermés, même si, comme l'indique The Guardian, tous ces établissements étaient ouverts jusque-là en toute légalité et respectaient les règles de distanciation strictes. Itaewon, jusque-là quartier donc qui ne dort jamais, est devenu une petite ville fantôme. Il faut dire qu'on y a identifié au moins 75 personnes contaminées à partir de ce seul patient zéro, lequel, et c'est important de le dire pour la suite, ne savait pas qu'il était porteur du coronavirus au moment où il a commencé ses virées nocturnes dans 5 établissements d'Itaewon au début du mois.
La suite, en l'occurrence, c'est une forte vague d'homophobie qui se fait jour dans la société sud-coréenne.
Oui, c'est bien ce que décrit Nemo Kim, le correspondant à Séoul du Guardian. Les clubs qu'a fréquenté le jeune porteur sain, bien malgré lui, étaient des clubs gays pour lesquels Itaewon, il faut bien le dire, est réputé à travers tout le pays. Et depuis que les autorités sanitaires de la région de Séoul recherchent pour les tester toutes les personnes qui ont fréquenté ces mêmes clubs, en même temps que notre patient zéro, il y a une peur-panique qui s'installe dans la communauté homosexuelle. Car, comme confirme le magazine américain LGBT The Advocate, la société sud-coréenne est très homophobe. En particulier le monde de l'entreprise, les gays là-bas ne peuvent pas s'afficher en public sous peine de conséquences pour leur emploi et même dans leur entourage. Alors de peur que la machine de surveillance anti-Covid ne les expose contre leur volonté, certains préfèrent ne pas répondre aux sollicitations des enquêteurs sanitaires. Ils ont donné de fausses adresses aux policiers qui ont fait des descentes dans les clubs pour prendre les coordonnées de ceux qui s'y trouvaient. Dans le Korean Herald de ce lundi, le Premier ministre Chung Sye-kyun menace même de sanctions les habitués d'Itaewon qui refusent de coopérer et de se faire tester. Mais ce langage de sanction ne prend pas du tout en compte la peur qu'éprouve cette communauté de voir ressurgir les pires moments de l'épidémie du sida, ceux de la stigmatisation dans l'opinion publique de la communauté homosexuelle. La réalité telle que la décrivent aussi bien The Guardian que The Advocate, c'est celle d'une communauté gay sud-coréenne qui subit depuis quelques jours, plus encore que d'habitude, les conversations homophobes décomplexées au travail, les commentaires haineux sur internet et même les messages de menaces envoyées par de faux comptes sur les applications de rencontres gays. Voilà ce que peut aussi ramener avec lui le coronavirus. Et voilà aussi un possible effet négatif du tracking, cette méthode qui consiste à surveiller les déplacements des individus pour les identifier très précisément, quitte, pour des raisons sanitaires au départ louables, à livrer les détails de leur vie personnelle en pâture au tabloïd et à la vindicte populaire.
Et nous parlons à présent d'un service public menacé, un de plus, c'est aux États-Unis. Et il s'agit tout simplement de la poste américaine.
Oui, la poste dont le New York Times nous rappelle qu'elle est le service public le plus populaire aux États-Unis, avec une glorieuse histoire qui remonte à la conquête de l'Ouest et au Pony Express. Eh bien, la réalité actuelle est beaucoup moins glorieuse. Avec la crise sanitaire actuelle, le financement de ces US Postal Services est devenu critique. L'État fédéral est appelé à venir à son secours, comme il l'a fait pour sauver d'autres pans de l'économie sinistrée. Mais la présidence Trump et le Parti républicain traînent les pieds et font même de ce débat pour ou contre le maintien d'une poste comme service public financé par l'impôt, l'un des sujets politiques de débat de la campagne présidentielle. En gros, résume USA Today dans un éditorial consacré à la défense de la poste, le US Postal a besoin de 75 milliards de dollars dont Trump retarde le versement parce qu'il veut pousser ses dirigeants à augmenter les tarifs de livraison de colis par leurs facteurs. Et là, ce serait de la part du président une manière de s'en prendre à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, le géant de la vente en ligne qui bénéficie abondamment du réseau postal pour acheminer ses livraisons, mais qui possède aussi The Washington Post, un journal qui éreinte quotidiennement, on en fait l'écho ici, la présidence Trump.
En clair, la Poste et son demi-million d'agents seraient les victimes collatérales d'une vengeance sournoise de la Maison-Blanche contre le boss d'Amazon.
C'est ça en partie et c'est déplorable, commente David Cole dans The New York Review of Books, à un moment où l'Amérique a besoin, selon lui, d'une démocratie postale. Et c'est vrai qu'avec l'épidémie qui fait des ravages aux États-Unis, la possibilité d'un vote par correspondance en novembre pour la présidentielle est évoquée très sérieusement. Et est-ce que tout cela serait possible? En tout cas, les politologues américains s'accordent à penser que cela permettrait une hausse importante de la participation des Afro-Américains, qui sont plus souvent que d'autres réticents à se rendre dans les bureaux de vote et qui ne sont pas particulièrement favorables, on le sait, au président actuel. Sans surprise, Donald Trump s'est jusque-là montré plutôt réticent à cette idée que le vote sur sa réélection se joue par voie postale.
Merci beaucoup, Camille Magnard, pour cette revue de presse internationale.